102.1. Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard 102.1.
Boulevard
102.1. Votre partner de show.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Merci d'être là, merci d'être bien branché sur cette merveilleuse station. Mon émission s'appelle Marceau Soir, mon prénom c'est Marceau, très content de vous accompagner pour la prochaine heure. Et ce soir, je vous présente un gars qui c'est la première fois que je suis en ondes avec lui. Je l'ai croisé un peu à la station, un gars qui me semble fort bien sympathique. Quand je l'entends, quand il remplace avec Denis ou encore avec les autres animateurs, je trouve qu'il a de l'air d'un bon gars, puis il a de grandes connaissances au niveau du merveilleux monde de l'automobile, puis je sais que vous adorez parler du merveilleux monde de l'automobile, donc on va le faire pendant les 50 prochaines minutes. J'ai le plaisir d'accueillir Samuel Tremblay-Michaud qui est là. Salut mon ami!
Hello, hello!
Très content de te jaser pour une première fois dans l'émission Marceau Soir. J'ai des questions à te poser parce que j'ai su par les branches que tu étais à RPM et tout ça, puis là, ton nom de famille, Michaud, es-tu de la famille à ce fameux Pierre Michaud-là, cette grande vedette internationale de l'automobile?
C'est une question qu'on me pose de plus en plus. Pour vrai, non, je ne suis pas parent avec Pierre Michaud, mais Pierre Michaud, de mémoire, a habité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense qu'il vient du Saguenay. Okay. Puis moi, je suis de la famille à Jonquière aussi. J'ai vécu quelques années au Saguenay également. Fait que c'était vraiment trompeur. Mais non, écoute, j'ai aucun lien de parenté avec le fameux Pierre.
Ouais. Toi, tu étudies en communication au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ça?
Exactement. J'ai fait ma technique en communication à Jonquière. Quel beau programme, vraiment plaisant. J'ai toujours eu comme mission de vie de devenir journaliste automobile. Moi, c'est quelque chose qui, depuis toujours, j'ai toujours voulu faire ça. Puis c'est la raison pourquoi je suis allé faire justement mon cours à Jonquière. C'était d'essayer de continuer à travailler dans ce microclimat-là, tu sais, qui n'existe pas. Il n'y a pas tant de monde qui font ça, donc moins au Québec encore. Tu sais, c'est des jobs très nichés. Puis je me suis dit, écoute, en allant chercher un peu de connaissances en communication, puis en commençant à vouloir pousser ça, je vais peut-être réussir à me rendre là un moment donné. Puis je commence à être de plus en plus là-dedans. Là. Je commence à être pas mal content du parcours qui est fait.
Puis mécanicien, ça te tentait pas?
Écoute, oui puis non. J'ai beaucoup de respect pour les jobs de mécanique. Ouais. J'aime chauffer des chars. Puis c'est vraiment ça que j'avais envie de faire, c'était conduire des autos. On m'a souvent demandé, puis peut-être que tu t'en allais me poser la question, de vendeur, veux-tu vendre des chars? Tu aurais pu devenir conseiller aux ventes. C'est un art que je ne maîtrise pas tout à fait à 100% la vente de voitures. Ouais. Autant que j'aime ça, autant que je ne suis pas la bonne personne pour la vendre, je pense qu'il y a des gens mieux placés que moi pour faire ça. Fait que non, j'ai décidé de vraiment m'aligner sur un projet très dur qui demande beaucoup d'énergie, mais qui me passionne encore aujourd'hui énormément.
Est-ce que tu sais ce que pensent les mécanos des chroniqueurs auto? Tu veux-tu vraiment le savoir?
Je le sais parce que, tu sais, veux pas, quand j'écris des choses, je regarde un peu des fois les commentaires. Hein, tu sais, on est tous un peu ce genre de bébite-là. Ouais. Je sais pas si tu fais ça toi aussi, là, mais tu sais, moi, je regarde un peu les commentaires. Puis des fois, c'est ça. Je vois des gens qui connaissent la mécanique qui vont en cœur joie de dire qu'on connaît pas ça, nous autres, les journalistes, les chars. Mais c'est sûr que, tu sais, puis humblement, j'ai pas les connaissances d'un mécanicien qui travaille là-dedans tous les jours, qui démonte des pièces, qui change des morceaux importants. Ouais. Mais je tiens à le dire pour rassurer le monde, mais tu sais, je fais mes breaks, je fais des changements d'huile, j'ai changé mon climatiseur dans mon char dernièrement, je taponne quand même un peu dans mes affaires. Fait que tu sais, je suis pas non plus zéro pis une barre en mécanique, mais je me proclame pas mécanicien parce que c'est une vraie profession.
T'sais. Ouais, c'est ça. Mais eux autres, ils ont comme un biais cognitif là, parce qu'ils voient les véhicules rentrer au garage. Puis tu sais, ça dépend aussi où est-ce que tu habites. Si tu habites dans un endroit où les voitures sont un peu plus luxueuses, il va y avoir des marques un peu plus luxueuses que tu vas avoir dans ton garage, que tu vas devoir travailler dessus. Mais tu sais, si tu es un garagiste qui, je sais pas, moi, habite dans le secteur, tu sais, je sais que ça va être péjoratif ce que je dis, mais en même temps, je m'assume, tu es dans le secteur de Vanier, il y a des gens qui sont pas très fortunés, donc ils ont des véhicules qui, tu sais, parfois sont encore des années 90, début 2000. Puis là, ben, ils entendent le chroniqueur parler de ce type de véhicule-là qui revient en vente, qui est un bon véhicule. Puis là, lui, il dit, ben, t'es un peu, là, moi, j'ai juste ça au garage. Ces hosties de chars-là! Pourquoi il dit ça, le chroniqueur automobile?
Ben, tu sais, tu mets le doigt sur quelque chose de super important parce que, tu sais, au bout de la ligne, je pense qu'on va quand même au battre les chroniqueurs automobiles, pareil, ah oui. Parce que, tu sais, faut qu'on tranche à dire, selon les composantes qu'on voit, puis l'essai qu'on en fait, l'historique du manufacturier, puis l'historique de la motorisation de ce véhicule-là, on peut peut-être, oui ou non, le conseiller, tu sais. Puis c'est un peu là l'enjeu, c'est que des fois, on se fait prendre par surprise parce que des motorisations qui étaient super fiables il y a quelques années ont été modifiées. Des nouveaux injecteurs, on a changé des composantes pour l'environnement ou quoi que ce soit, puis les moteurs deviennent des vrais citrons, on a des problèmes majeurs, puis là, tout est le boulot qui est allé dire à télé, « Hey, c'est un bon char, achetez-le, tu sais. C'est un excellent choix. » Ben tu sais, tu t'exposes à ce genre de critiques-là aussi, mais dites-vous que généralement, on est prudent. Je vous dirais qu'on est prudent avant de recommander quelque chose. Puis, tu sais, je vais prêcher pour RPM là-dessus, mais l'équipe est vraiment très prudente avant de dire oui ou non, ce produit-là, on le réfère. Puis, moi, je suis quelqu'un qui travaille toujours pour nous, ben, pour nous, parce que je me considère comme un automobiliste régulier, comme tout le monde. Puis, tu sais, des voitures qui sont tellement rendues dispendieuses aujourd'hui, des problèmes qui peuvent devenir tellement dispendieux également. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps d'analyser les véhicules avant de dire si c'est un bon choix ou non pour les gens qui vont les conduire, ces voitures-là. C'est facile après ça de dire « ce char-là, il est extraordinaire, mais quand il coûte 90 000, tu sais tout de suite que tu viens d'enlever beaucoup de gens qui ne pourront pas se l'offrir. » Fait qu'il y a cette analyse-là qui est importante, puis je pense que c'est un peu la mission des journalistes également de penser aux gens qui vont les conduire. Ça, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. T'sais.
Exact. Puis aujourd'hui, les véhicules automobiles sont dotés de technologies incroyables. T'sais, je pense qu'il y a plus de technologies dans les véhicules qu'on a en 2023 qu'il y en avait quand on a shippé Neil Armstrong sur la Lune. C'est extrêmement complexe. Puis je parlais avec Mathieu Thomassin, qui est chroniqueur auto aussi cet après-midi, puis il me disait que le prix moyen du véhicule au Québec vendu, c'est 64 000 $ là. C'est tout un investissement. Puis moi, ce que j'aime de toi, puis ce que j'aime aussi de la gang d'RPM, puis de Mathieu Thomassin, c'est que, oui, vous êtes des chroniqueurs auto, mais vous jasez régulièrement avec des mécanos, tu sais. Donc, moi, je peux, si j'ai une idée sur une voiture, bien, je peux avoir le gars qui l'essaye, puis qui l'apprécie, le véhicule, puis je peux avoir aussi le gars qui le répare, tu sais. Mais 64 000 $ véhicule moyen au Québec, c'est vraiment, c'est un bon montant investi, là.
Et ça, c'est dans le véhicule neuf, parce que si tu vas dans le véhicule usagé, c'est 37 000 $ le prix moyen d'un char usagé. Écoute, un char usagé, généralement, là, tu sais, quand les gens s'en débarrassent, c'est qu'ils ne veulent pas payer le changement de pneus, ils ne veulent pas faire les réparations de freins, ils ne veulent pas faire quelque chose qui a rapport à l'entretien du véhicule. Fait que tu pars avec une auto à 37 000 hey, je remonte à 4 ans, 4-5 ans. Quand on achetait un Honda Civic à 35 000, on avait le modèle Touring avec les toits ouvrants, quasiment le char un peu plus, il venait de chercher tout seul. Là, c'était comme le gros char. Puis là, dans les voitures usagées, on est rendu à 37 000 $ ça, c'est pour la province du Québec, hein, je tiens à préciser. C'est vraiment centré sur le Québec. C'est vraiment élevé, là, honnêtement. On est rendu à des moyennes de prix qui sont hallucinantes. La technologie prend une place énormément importante dans les véhicules. Puis je pense que nous, on va avoir de quoi à faire. Il va falloir qu'on commence à dire de plus en plus c'est quoi les besoins qu'on a réellement. Tu sais, les constructeurs, présentement, s'en mettent plein les poches. Parce que les gens achètent les versions les plus équipées des véhicules. Tu arrives chez un dealer, il n'y a jamais la version de base. Là. Ouais. C'est toujours la version extrême pro avec tous les équipements nécessaires, les gros mags, le toit ouvrant qui est panoramique. Et ça fait en sorte que automatiquement le prix du véhicule augmente. Mais l'affaire, c'est qu'il vend quand même le concessionnaire le véhicule. Ou le fabricant, le constructeur va les vendre quand même, ces unités-là. Fait que pourquoi en faire des pas dispendieuses de base quand les gens sont prêts à payer autant cher pour ça? Je pense que c'est à nous collectivement de se dire, il faut qu'on commence à ralentir un peu plus notre style d'achat. Il faut qu'on commence à se dire, peut-être que c'est pas tout le monde qui devrait avoir un toit ouvrant. T'sais. Peut-être que moi, je peux me contenter d'avoir un char pas de toit ouvrant qui va faire la job. Je vais prendre le modèle de base, quitte à l'attendre, je vais le mettre en commande, je vais être patient. Donc, moi, on va montrer dans les statistiques que les gens sont prêts à attendre pour avoir des véhicules moins dispendieux. J'ai l'impression qu'on va commencer à revoir des véhicules abordables si on applique ce genre de technique-là.
Ah, je trouve ça intéressant, mais tu sais, l'ajout de technologie constamment, année après année, de un, ça complexifie le travail pour ce qui est des techniciens là, qui travaillent sur ces fameux moteurs-là, mais de deux, tu te dis, t'as peu, là, j'ai-tu vraiment besoin de tout ça? Puis à quel point ça me rend dummy comme conducteur d'avoir toutes ces technologies-là? C'est rendu que je fais plus confiance à ces technologies-là qu'à moi-même, tu sais.
demander à quelqu'un qui prend son GPS tous les jours s'il voit les panneaux routiers. On les voit plus. On engage juste le GPS, puis là, le GPS tourne à droite, mais c'est écrit en gros, là, tu sais, sortie d'autoroute, la bonne sortie, mais on le voit plus, le panneau. On ne regarde plus qu'est-ce qui se passe sur la route, puis la technologie amène vraiment ce phénomène-là. On a des discours, hein, qui sont assez intéressants de la part des autorités qui vont parler justement du côté sécuritaire, hein, tu sais. On rend les véhicules plus sécuritaires, on va diminuer le nombre d'accidents. Mais moi, j'ai envie de prêcher pour l'humain, puis de dire, on peut-tu juste être des meilleurs conducteurs, puis continuer à s'améliorer, tu sais? Ouais. Parce qu'on peut continuer à valoriser l'éducation derrière le volant, continuer à montrer aux jeunes comment bien conduire des chars, ou même à des gens qui, peut-être, seraient dus pour un petit renouvellement d'apprentissage de conduite, bien, je pense que ça serait positif de juste garder le focus sur quand on a le steering entre les mains, bien, c'est nous autres qui sommes responsables de la sécurité des autres, puis c'est à nous autres d'être allumés derrière le volant. La technologie, là, c'est pas toujours parfait. Il y a des bobos. On s'y fie trop maintenant, je pense, en automobile. Je suis pas en train de vous annoncer que ça va ralentir. On s'en va vers là vraiment. On voit, les constructeurs s'en vont aussi vers là. Mais encore une fois, tout est une question d'offre et de demande.
Exact.
On est prêt à... C'est ça.
Mais tu sais, des véhicules qui sont munis de vision de nuit, des véhicules qui vont peut-être pouvoir détecter un chevreuil qui est dans le bois, qui s'en vient vers la route, qui est à genre 10 mètres, 15 mètres de la route. T'sais, moi, je trouve que cette technologie-là est extrêmement pertinente parce que moi, avec mes yeux, je ne réussirai jamais à le voir, le chevreuil qui s'approche, tu sais, qui est encore dans la forêt, mais qui s'approche. Ça, ce genre de technologie-là est pertinente, mais je trouve qu'on est comme noyé dans cette technologie-là, puis ça nous rend un peu demi en tant que constructeur. T'sais, les gens sont même plus capables de se stationner sans la caméra de recul. Ils ne sont plus capables de le faire.
Non, mais tu sais, j'ai une voiture, puis j'en laissais plein des voitures, ils ont toutes des caméras de recul. Puis des fois, quand j'embarque dans un véhicule qu'il n'y en a pas, mais moi, je suis comment je fais pour qu'il le charge, tu sais. Faut que tu te retournes, là, tu mets ton bras en arrière du banc passager, tu te retournes, puis là, tu commences à faire ta manœuvre. Mais tu sais, c'est des réflexes qu'on perd. Puis tu sais, on peut penser aussi aux voitures manuelles qui disparaissent de plus en plus. Tu sais, le principe de changer une vitesse, ça, c'est quelque chose qui disparaît tellement, mais qu'au bout de la ligne, te donnait tellement un beau contrôle sur la compression de ton moteur pour ralentir, pour réussir à attaquer une courbe, pour réussir à juste être pleinement en maîtrise de son véhicule. On enlève de plus en plus ça dans les autos. Fait qu'il y a vraiment cette espèce d'amalgame de choses. Parce que moi, je suis content d'avoir l'écran avec Google dans mon écran pour savoir ce que je m'en vais. Je trouve ça le fun. T'sais, c'est un bel ajout technologique. Mais j'aime ça des fois me lever les yeux et checker les panneaux. L'équilibre.
Puis je jasais avec un de mes chums qui est probablement l'homme le plus détesté du monde entier, qui travaille à la SAC. C'est lui qui fait passer l'examen pour le permis de conduire. et il me disait que quand il prend des gens qui ont perdu leur permis de conduire et qui doivent refaire leur cours de conduite, exemple, ils t'ont enlevé ton permis de conduire parce que t'avais un problème de santé. Puis là, ben, faut que tu repasses un examen. C'est rendu que les gens font plus d'angle mort. Ils se fient sur les petites lumières qui s'allument sur les miroirs. Tu te dis, ben voyons donc, tu sais, c'est un réflexe pour nous de faire notre angle mort complet. Tu sais. Eux autres, ils regardent les lumières à chaque bord et ils se disent, ben ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'en vient, je peux changer de voie.
C'est pas allumé, il n'y a pas de problème, je vais tirer le volant à gauche, mais il n'y a aucun problème.
Exact. Hey, comme premier sujet que je voulais aborder avec toi, Samuel Tremblay, Michaud, c'est l'importance des rappels automobiles. Je plaide coupable. À chaque fois que j'ai un rappel automobile sur un vieux véhicule que j'ai, là, j'y vois pas nécessairement si je juge que j'ai pas nécessairement besoin de ça. Toi, tu trouves ça comment, des gars comme moi, qui répondent pas toujours à l'appel quand ça semble pas pertinent, là, à mes yeux, à moi, mais ça se peut que pour toi, tu trouves ça important, là?
Non, mais je trouve ça que, puis tu sais, honnêtement, je suis un humain comme tout le monde qui a une vie chargée, puis j'ai pas toujours le temps d'amener mon char au garage pour un rappel qui me semble bénin, tu sais. Moi, je suis d'accord avec ça, puis je trouve que c'est correct que les gens, mettons, remettent en doute le « est-ce que c'est nécessaire que je le fasse? » Mon point, par contre, par rapport à ça, c'est de dire que quand il y a un rappel qui est émis sur un véhicule, on parle toujours de des rappels de sécurité, dites-vous qu'il y a personne qui est content. Puis j'en parlais dernièrement avec Audrey dans le retour aussi de ça, mais tu sais, il y a personne qui est content de faire un rappel, tant l'automobiliste pour qui ça va prendre du temps, tant pour le concessionnaire qui va devoir gérer la réparation et l'ajustement du rappel, tant pour le constructeur qui, lui, va payer pour faire la réparation, parce que c'est pas nous qui payons, c'est le constructeur qui va payer, puis pas non plus le gouvernement qui, lui, doit émettre un rapport dans Transport Canada, la bureaucratie qui s'enchaîne avec ça, pour amener les gens à aller là. Fait que quand on met un rappel, c'est souvent pour des bonnes raisons. Même si des fois, tu sais, dernièrement, j'écrivais un article, puis c'était pour la clé des Nissan Rogue et Qashqai S, le modèle S de ces véhicules-là, vendus entre 2013 et 2019 de mémoire. Et ces produits-là, avec des clés physiques, à la longue, la clé, elle devient un peu molle. Tu sais, c'est des clés qu'on clique sur un bouton, puis on voit vraiment la clé sortir. Ouais. C'est comme dans un boîtier en plastique. Quand on clique sur le bouton, bien là, on met la clé dans le barillet, on allume le véhicule et on s'en va. Bien, à la longue, cette clé-là, elle se fatigue, puis le boîtier de plastique sur lequel on a les boutons pour débarrer le véhicule se met à plier. Et en pliant, il peut éteindre le moteur. Puis c'est arrivé des cas où est-ce que la clé, à force d'être trop utilisée, les gens sont en train de conduire sur l'autoroute, le petit boîtier de plastique faiblit, coupe le moteur, on est sur l'autoroute, l'auto vient de s'éteindre, situation tannante, puis tu sais, au bout de la ligne, on regarde le rappel, c'est pour une affaire de clé, on fait juste mettre une petite affaire de plastique à l'intérieur pour ouais. mieux supporter la clé, c'est super niaiseux en bon français, tu sais, mais au bout de la ligne, il y a vraiment de quoi de sécurité qui est relié à ça, puis tu sais, Nissan n'est pas plus content de faire venir tout le monde dans son garage pour ça, il y a certains... Je dirais pas des complotistes, mais je dirais des gens qui regardent les rappels avec un œil un peu plus suspicieux en disant c'est des stratégies de vente. On veut faire rentrer les gens dans les concessionnaires. Fait qu'on veut que les gens rentrent à pied dans les concessionnaires, voient les nouveaux produits, se laissent tenter pour acheter un autre véhicule. J'ai aucune donnée pour appuyer cette pensée-là. J'ai aucune manière de prouver quoi que ce soit. Est-ce que c'est une stratégie, comme je me répète un peu, mais je pense pas que personne aimerait ça, faire ce genre de grosse boucle-là très coûteuse pour réussir à vendre un produit dans un showroom à un moment donné. Là. Mm-hmm. J'ai un feeling que ça ne se tient pas vraiment. Mais il y a du monde qui croit à ça fortement. Maintenant, écoute, est-ce que le marketing est rendu à pouvoir maîtriser les rappels de Transport Canada à voir et à suivre? Là? Mais c'est, ça serait dans cette augure-là là, qu'on voit avec les rappels.
Okay. Dans le show du midi, on avait parlé des fameux vols de véhicules là, où le voleur arrive près de ton véhicule, utilise un appareil qui est assez technologique, qui répète le signal, donc qui met plus fort le signal que ta clé peut émettre pour ouvrir le véhicule, puis laisser croire ouais. que t'es à côté, puis que tu peux partir le véhicule. Est-ce que les concessionnaires, est-ce que les constructeurs vont faire quelque chose pour ça? Y a-tu des gouvernements qui vont dire ben faudrait peut-être arrêter de vendre cette bidule-là à des gens qui sont non professionnels là, tu sais?
Souvent, tu sais, je pense que c'est vraiment le marché noir qui se met la main là-dessus. Tu sais, c'est pas vendu légalement ces gadgets-là. Là. J'ai vraiment l'impression que ceux qui sont utilisés pour voler sont pas ceux qu'on utilise dans les garages spécialisés. J'ai comme un feeling que c'est un peu l'espèce de version 2.0 cachée, un peu obscure. Tu sais, pour répondre rapidement aux multiples possibilités de cette question-là, oui, les gouvernements sont en train d'agir présentement pour essayer d'empêcher de plus en plus les vols de véhicules. On le voit aux États-Unis, où la ville de New York vient de mettre en demeure le constructeur Hyundai et Kia pour des problèmes de vol de véhicules, parce que les voitures sont tellement faciles à voler qu'il y a même une mode sur les réseaux sociaux, les fameux Kia Boys, ouais. qui sont des gens qui se filment en train de voler des voitures Kia de manière si simple avec un fil iPhone. On est capable de partir le véhicule et de littéralement voler l'auto tellement facilement que ça a tellement engendré des problèmes dans la ville que l'État poursuit maintenant les constructeurs. On en parle de plus en plus. Moi, ça fait un an que j'en parle des vols de voitures. Tu sais, je pense que la première chronique que j'ai faite à Boulevard, c'était avec Denis pour parler de vols de voitures. C'était en octobre passé. Ça fait bientôt un an que j'en parle quasiment tous les mois de vols de voitures. Puis je vous dirais que le phénomène va commencer à être pris au sérieux au plus en plus parce qu'on en parle tellement. Il faut qu'on continue à en parler de ça parce que les constructeurs vont commencer à faire des publicités, selon moi, dans les prochains mois qui vont être notre véhicule, le nouveau système de protection XYZ pour protéger les vols. On a trouvé une manière de couper l'onde de la clé. On trouve des solutions. Donc, j'ai comme l'impression que le marketing automobile va aller vers là tranquillement. On va commencer à parler des nouveaux systèmes de sécurité pour les rendre plus difficiles à voler encore. Ouais. C'est un vieux problème, hein? C'est un problème vieux comme le monde, ça, les vols de voitures. Mais aujourd'hui, il est juste rendu technologique et drôlement efficace. C'est ça qui t'sais, la technologie, là, ça revient un peu à ce qu'on disait. T'sais. Il y a des pour et des contre. Les clés sans clés, t'sais, quand on arrive dans notre voiture, on peut laisser nos clés dans nos poches pour démarrer le véhicule. C'est le fun, on aime ça. T'sais. C'est super pratique, c'est commode en bon français, encore une fois. Mais en même temps, ça amène la possibilité de capter cette onde-là et de reproduire une clé numérique pour voler sans endommager le véhicule, sans faire une scratch dessus. Là. T'sais, on est capable de voler une voiture tellement facilement que la technologie joue contre nous dans ce dossier-là. J'espère qu'on va commencer à avoir des voitures plus sécuritaires prochainement en termes d'anti-vol, mais j'y crois. Je pense que les constructeurs vont voir l'appât du gain là-dedans. Ils vont trouver des manières de nous rendre nos véhicules encore plus sécuritaires en nous vendant des nouvelles voitures. C'est un peu vers le bon valet.
J'avais vu un article passer. Honnêtement, la source, je ne l'ai plus en tête, là, mais c'était le maire de la ville de New York qui avait fourni des fameux AirTags gratuitement à des résidents dans un dit secteur parce que ces résidents-là se faisaient constamment voler leur voiture. Quand c'est la ville qui est rendue qui te donne des AirTags, là.
Écoute, le Kia Hyundai envoie présentement aux États-Unis, surtout dans les États plus au sud, des barrures de volant, les fameux bâtons qu'on met autour du volant pour empêcher le volant de tourner. Là.
Ouais.
C'est brandé Kia Hyundai. Ils envoient ça par la poste aux propriétaires des véhicules qui sont concernés par ce problème-là. Puis leur disent, maintenant, vous avez un outil de plus pour vous protéger. T'sais. On est rendu là. Ça prouve un peu le fléau. Là.
Pour ce qui est des fameuses clés magnétiques, là, est-ce que les boîtes de Faraday qu'on peut acheter à genre 25$ chez Amazon, ça peut faire le travail? Tu arrives chez toi, tu mets tes clés là-dedans, puis merci, bonsoir. Tu fermes le couvercle.
Amplement. Laissez-les pas le moins possible sur le bord de la porte aussi. C'est surtout ça un des trucs. Hein. Si vous mettez votre clé, par exemple, dans votre cuisine, tu sais, des fois, c'est simple de changer une habitude. On les met toujours sur le bord de la porte, nos clés. C'est comme une habitude qui se crée. Est-ce qu'on est capable de les mettre, je sais pas, dans un tiroir dans la cuisine ou dans une pièce un peu plus loin que la porte? Ça va nous aider parce que les voleurs, généralement, ne rentrent pas chez vous pour capter l'ombre. Ils restent à l'extérieur. Fait que si votre clé est sur le bord de la porte, bien, elle est plus proche des voleurs qui, eux, sont à l'extérieur. Fait que le but, c'est de mettre votre clé un peu plus loin, même que vous n'êtes pas obligé d'acheter une boîte nécessairement, comme à 25$. Si vous avez une vieille boîte de cadeaux de Noël, là, de cartes cadeaux qu'on achète des fois, là, des boîtes en métal, ça peut faire la job aussi. C'est pas autant efficace, mais c'est amplement efficace pour empêcher de capter l'onde suffisamment. Donc, c'est ça, c'est des petites techniques qui existent aussi. Moi, je fais ça, honnêtement. Ça dépend des véhicules. Comme là, j'ai un véhicule à laisser. J'ai un Chevrolet Silverado 2500 HD, un gros camion. Et ils sont volés. Ils se font voler tout le temps, ces trucs-là. Ils sont tout le temps en train de se faire voler. Fait que moi, j'ai pris ma clé, je l'ai cachée dans mon sol, dans une boîte, puis je l'ai mis le plus loin possible de ma porte en me disant, regarde, quand je serai pas là, au moins le véhicule, cette technique-là marchera pas pour le voler, du moins.
Exact, exact. Mais la boîte de Faraday, là, je viens d'aller sur Amazon, c'est autour de 20-25$, là, puis ça arrive chez vous dans 2-3 jours, puis tu laisses ça sur le bord de ta porte, tu mets tes clés là-dedans, tu fermes la boîte, merci, bonsoir, t'es protégé.
C'est réglé.
Exact. Hey, dis-moi si c'est moi qui rêve, mais j'ai l'impression que les pare-brises automobiles sont de moins en moins épais. Ça pète facilement. Est-ce qu'avec le temps, les concessionnaires, les constructeurs se sont dit on va mettre des pare-brises moins résistants? Y a-t-il des raisons de sécurité? Moi, je vais être très ouvert avec toi puisque je l'ai dit. Ça fait 3 fois que je change mon pare-brise. J'ai un Wrangler, moi. Fait que l'angle de la fenêtre là, fait en sorte que quand je reçois une roche, c'est presque sûr que je vais aller chez Vitro Plus dans les prochaines heures pour ne pas les nommer. Là. Puis à chaque fois, là, les gars sont pas surpris. Là. Ils m'accueillent, puis ouais, t'inquiète-toi pas, on est en backup, on va te poser ça. Puis ils me chargent, ils me mettent ça sur la facture, puis après ça, je check mon camp. Mais j'ai l'impression qu'ils en mettent de moins en moins pour protéger le véhicule.
Écoute, on voit ce phénomène-là beaucoup dans la peinture automobile. Tu sais, les peintures ont perdu vraiment de qualité, là. Les voitures neuves qui écaillent, on voit des picots de rouille qui se créent plus prématurément également. Pour les pare-brises, écoute, j'ai monté un dossier là-dessus, puis j'avais appelé des experts qui changent des pare-brises autres. C'est leur travail de faire ça. Ce que je me suis fait donner comme information, c'est que les pare-brises ne sont pas de moins bonne qualité nécessairement en termes d'épaisseur. Il va y avoir des grades d'épaisseur, par contre. Quand on achète des produits, exemple, haut de gamme, généralement, nos pare-brises sont juste de meilleure qualité, point. T'sais, ça fait partie de l'ensemble du prix. On achète un véhicule plus cher, on a un pare-brise de meilleure qualité. Bon, après ça, l'autre phénomène qu'on se rend compte, c'est que les pare-brises coûtent plus cher à changer. Donc là, tu te dis, c'est la même qualité, mais c'est rendu plus cher que jamais changer ça. Fait que là, il y a des questions qui se posent au niveau justement de « Ouais, mais là, si je change autant qu'avant, ça me coûte 1500$ maintenant changer mon pare-brise. Ça m'a coûté 500$ voilà 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? » Plusieurs raisons autour de ça, la technologie, les capteurs, tout ce qui est des caméras de surveillance de freinage d'urgence, tout ce qui est des caméras pour les panneaux routiers. Là. Les voitures aujourd'hui, quand on est sur le cruise control, vont nous dire quelle est la vitesse moyenne dans un secteur ou un autre. Toutes ces caméras-là demandent d'être recalibrées. Et la recalibration coûte vraiment cher, les outils sont dispendieux et les techniques sont complexes. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles on dit que les pare-brises coûtent plus cher que jamais maintenant. Sauf que moi, un des phénomènes que j'observe, puis je pense que c'est une source de solution, je ne me suis pas fait confirmer ça, mais j'ai envie de vous dire que les véhicules n'ont jamais été aussi gros que présentement non plus. Et j'ai l'impression que si vous êtes propriétaire d'une voiture compacte qui est plus basse à la base, vous allez avoir beaucoup plus de VUS devant vous maintenant que jamais. Ces véhicules-là étant plus hauts, ont tendance à tirer plus de rush en arrière également. Et je pense que ça fait partie du phénomène. Le Wrangler est un exemple intéressant. L'angle du pare-brise est tellement droite, c'est tellement carré comme véhicule qu'effectivement, la roche rentre, c'est comme un coup de poing qu'on mange directement en plein visage. Donc, c'est sûr que ça brise le pare-brise plus facilement. Mais tu sais, théoriquement, on dit que les qualités n'ont pas diminué. Un pare-brise, il faut savoir que c'est une pièce de sécurité aussi vraiment primordiale dans les véhicules. Il y a des normes autour de ça. On ne peut pas vendre n'importe quel pare-brise au Canada sur nos véhicules. Donc, on me dit que ça n'a pas changé de qualité. Moi, où est-ce que j'ai un problème, c'est que ça coûte plus cher que jamais à changer. Puis ça, je pense que c'est un enjeu important à discuter parce que, tu sais, les pare-brises, tu dis toi-même trois fois, moi, je suis déjà rendu à deux sur mon véhicule, je m'en vais peut-être sur un troisième, je vais toucher du bois, là, mais tu sais, ça peut arriver n'importe quand, une craquure dans un pare-brise, puis de savoir que ça coûte 1 500, les gens passent par leurs assurances, ça passe par ci, ça passe par ça, ça commence à être vraiment complexe, puis j'ai comme l'impression que ça, c'est le prochain gros dossier qu'on va traiter. Là, on parle beaucoup des vols de voitures. J'ai l'impression que dans une couple d'années, là, on va dire là, les pare-brises, ça n'a plus d'allure. Là. T'sais, là, on a atteint comme le paroxysme du coût des pare-brises. Ça ne pourra plus coûter plus cher que ça. C'est la même vitre qu'avant. Je comprends que la calibration coûte cher, mais trouver des méthodes pour la faire plus facilement et moins dispendieusement. T'sais, il doit avoir des. On va sur la Lune, là. On doit être capable de trouver une solution pour réparer un pare-brise moins cher.
C'est ça. Mais tu sais, ils posent ta fenêtre, Sam, puis ils mettent des petits gants blancs, puis il y a comme des procédures à suivre. Ce qu'on mais autour, ça coûte plus cher, ça vient d'ailleurs.
Il allume des chandelles, là. On sent un peu dans un, tu sais, c'est un petit moment. Là,
mais pourquoi ça augmente? Ben, ça augmente parce que ben, tout augmente. L'électricité augmente.
Ouais, moi, à un moment donné, j'ai de la misère à acheter ça. Puis, tu sais, quand je vous dis, je pense que c'est notre job aussi de soulever ces éléments-là, ben, c'est ça. Là. Tu sais, moi, je trouve que les pare-brises, là, ça commence à être un vrai problème. Ils ont en stock. Hein. Il n'y a pas beaucoup de distributeurs de pare-brises au Québec. Il y en a comme deux gros joueurs. Tout le monde se fournit aux mêmes places. Que tu le prennes chez un ou chez l'autre, là, tu vas acheter le même pare-brise que tu aurais eu si tu passais par ton concessionnaire, que si tu passais par une shop spécialisée, parce que c'est les mêmes distributeurs. Fait que tout le monde a les mêmes pare-brises, mais au bout de la ligne, on charge des factures 2, 3, 4 fois plus cher que ça a déjà coûté. Là, maintenant, il va falloir mettre des points CI. Là. Il va falloir qu'on s'en parle.
Comme disait l'autre, Samuel Tremblay-Michaud, brossons donc un peu de marde. Est-ce que ces gens-là s'entendent pour avoir des prix un peu plus élevés qu'est-ce que ça devrait être?
Écoute, je peux pas m'avancer. Je tiens à avoir une carrière dans le domaine, mais je crois à l'histoire de la calibration.
Ouais.
C'est vrai que ça a l'air complexe à faire. C'est vrai que ça prend des outils qui sont vraiment dispendieux pour l'effectuer, la calibration. Maintenant, on est capable d'améliorer le processus. C'est mon seul. Ça sera mon seul commentaire de gants blancs, justement.
Non, mais ce serait pas la première fois que des gens s'entendent pour gonfler des prix, là, mais mettons que c'est non. Pas ça. OK.
Mettons que c'est pas ça.
Exact.
Mettons que c'est pas ça.
Tu voulais nous parler du nouveau Santa Fe. Est-ce que c'est un véhicule qui a été repensé ou on est encore dans le même type de véhicule qu'on avait dans les dernières années?
Mais j'étais content de venir parler avec toi, Marceau, parce que c'est la première fois qu'on le fait dans une émission, puis c'est la première fois que j'ai autant de temps avec vous à Boulevard pour parler de voiture. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas prendre le temps de parler de nouveautés. Puis je parle du Santa Fe parce qu'au Québec, on l'aime, le Santa Fe.
Oui.
C'est un véhicule qu'on a acheté beaucoup pour aussi plusieurs raisons. Hein. C'était un véhicule qui était abordable initialement, mais qui s'est montré très pratique aussi, puis drôlement fiable, pareil, au bout de la ligne. T'sais, on en voit encore des générations de Santa Fe plus âgées sur les routes. Il y en a encore beaucoup. Les véhicules sont encore en pas pire état, malgré tout. Et on voit que c'est un véhicule qui nous a plu par sa grosseur, par sa force aussi. On avait un moteur V6 qui nous permettait de remorquer également pour aller au camping, faire des choses comme ça. Et Hyundai ont présenté la nouvelle génération du Santa Fe. Dernièrement, une poignée de journalistes qui sont allés au Nouveau-Mexique rencontrer ce véhicule-là. Tu sais, on a connu ce véhicule-là, nous, dans les années 2000, début 2000, là, début 2001-2000, on a vu ce véhicule-là débarquer. Et on a la cinquième génération qui vient tout juste d'arriver. Tu sais, honnêtement, il est complètement repensé.
Ah ouais.
Il n'y a personne qui l'a encore conduit, mais si vous avez la chance de voir le look de ce camion-là, on dirait un Land Rover. Là. Puis je vous dis ça très humblement, là, vraiment, si vous connaissez un peu les Land Rover, on pense que ça ressemble au LR3, un modèle carré typique de la marque. On a tout redessiné, ce camion-là, que j'ai envie de l'appeler maintenant tellement qu'il est rendu massif. On a aussi axé une nouvelle édition qui est axée pour le camping. Donc, on veut que les gens puissent aller faire du camping dans leur véhicule. On a présenté des options. On a pu finir pour le transformer en véritable petit campeur roulant. Nouvel habitacle, on va garder des motorisations qui sont déjà connues, mais on a vraiment grossi le véhicule et surtout, on l'a ramené en Formule 7 passagers. Ça, c'est quelque chose que les gens aimaient initialement du Santa Fe qu'on avait enlevé dans la dernière génération pour laisser place aux palissades chez Hyundai de grandir.
Ouais.
Mais là, on vient de redonner une troisième rangée au Santa Fe avec un look vraiment plus assumé, un camion qui m'a impressionné au niveau du design. J'étais pas sûr de l'arrière du véhicule au début, je trouvais que ça faisait un peu futuriste, mais je m'habitue, puis on dirait que ça commence à me plaire de plus en plus. Je vous en parle parce que ça fait vraiment jaser présentement. Tu sais, on vit l'ère coréenne dans l'automobile.
Mm-hmm.
On a vu des ères, hein, dans l'automobile, l'ère américaine, on a vu l'ère allemande, l'ère japonaise. Tu sais, on a vu les Toyota de ce monde être des petits constructeurs devenir des numéro un mondial. Et là, je crois que depuis une dizaine d'années, là, on est dans l'ère coréenne où est-ce que là, les constructeurs comme Hyundai et Kia sur notre territoire ont commencé à produire des véhicules qui sont tellement osés au niveau des designs, au niveau des motorisations. On est arrivé avec des voitures électriques. Tu sais, on peut penser à la Hyundai Ioniq 5 qui est tellement en demande qu'on a encore des 2 ans d'attente pour mettre la main sur un produit comme ça. Il y a plein de constructeurs qui essaient de sortir leur épingle du jeu, mais Hyundai sont là, Kia sont présents. Là, je vous parle de ça, pensez pas que je suis vendu et que je travaille pour eux autres. Là. Je veux juste vous dire que je trouve qu'on vit un air qui est intéressant à voir aller et ça fait brasser la cabane un peu. Tu sais, quand on voit le nouveau Santa Fe, justement, avec un design autant gros, carré, je sais pas, on donne un look aventureux tellement osé que ça vient déstabiliser nos ténors de l'industrie qui, eux, sont restés très conservateurs dans leur design, sont restés très plates, je vais le dire comme ça, au niveau du style. Je pense que Hyundai va connaître un bon succès avec ce produit-là. Si jamais vous êtes en train de rechercher ça, il n'y aura pas de version purement électrique. On va avoir juste des motorisations, une hybride branchable et un moteur à gaz qui va être disponible également. Mais ça va être un produit qui va être à surveiller sur le monde dans les prochaines années. Si vous êtes en quête là, d'un camion.
Oui, puis au niveau de la consommation, ça peut ressembler à quoi là, aux 100 km?
C'est des véhicules qui, en plus, dans la version hybride, qui honnêtement pas si méchant que ça. Hein. Je vais te donner, mettons, des statistiques du modèle actuel parce que les chiffres pour le nouveau modèle ne sont pas encore sortis. Ça, c'est toujours bien compliqué. Là, quand on produit un véhicule, il faut comme refaire les tests avec Transport Canada pour déterminer. Et ça, chaque année. Hein. Mettons que vous avez, je sais pas, une Nissan Sentra 2021. En 2022, on a refait les tests. Ça se peut que la moyenne de consommation entre les deux tests ne soit pas la même, même si c'est le même moteur, même si c'est la même transmission. Des fois, c'est des ajustements, justement, dans les moteurs ou des petits éléments qui font en sorte que les véhicules change à ce point-là. Si je regarde, exemple, la génération sortante, là, elle qui est en route présentement, c'est un produit qui, au bout de la ligne, ne consommait pas trop d'essence. Tu sais, on avait 2 moteurs. On a le 1.6 turbo qui est également disponible en version hybride. Donc, on a un moteur électrique qui vient appuyer le véhicule. Et on a aussi la chance ou l'honneur, si vous voulez, d'avoir une version hybride branchable qui n'est pas beaucoup connue, qui n'est pas beaucoup achetée, malheureusement, parce que Hyundai n'en produit pas. C'est juste pour ça, parce que sinon, ça marcherait vraiment. Quand on regarde la consommation maintenant, on va être autour d'un 7.4 litres, je vous dirais, pour la version hybride. Quand on va chercher la version à essence régulière, on va plus être autour d'un 9.9 litres. En combinaison. Ça, c'est toujours en comparant la ville et l'autoroute, là, on fait vraiment une moyenne entre les deux. Donc, tu sais, c'est des camions qui, tu sais, 7.4 litres pour un véhicule de cette taille-là, dans lequel on est capable d'avoir de l'espace pour 7 personnes, dans lequel on est capable de faire des déplacements. C'est sûr que cette moyenne-là, on ne la fait pas le pied au plancher, là, mais quand même, 7.4 litres, c'est impressionnant dans la grosseur d'un véhicule qu'on a. Puis je pense que ça va plaire à plusieurs portefeuilles, là, vraiment.
Puis pour ce qui est de la consommation, Samuel, quand on parle de la consommation aux 100 km, là, est-ce que les tests sont faits toujours à l'intérieur sur un tapis roulant, dans le meilleur des cas, pour être sûr et certain de pouvoir mettre un chiffre extrêmement bas? Parce que c'est souvent pas le même. On sort du garage, puis quand on est en ville, on regarde ce qui était écrit sur l'affiche versus ce que nous autres ça donne. Tu dis, crif, il y a tout le temps un 0.5, 1.5 de plus que ce qui est écrit sur l'affiche. On fait ça encore en dedans, ça?
Ça se fait toujours dans un lieu qui est effectivement parfait. On pourrait le prendre comme ça. Je tiens par contre à soulever qu'il y a quand même quelques efforts qui sont faits pour être sûr et certain que la consommation soit le plus juste possible. On va, par exemple, utiliser le climatiseur. On sait qu'un climatiseur, ça fait en sorte que les codes de consommation vont augmenter. Mais tu sais, on l'utilise, le climatiseur. On l'utilise aussi pour faire les tests de consommation. Mais tu sais, on ne fera pas des vitesses de pointe à 120 km/h. Ce qu'on vous fait sur l'autoroute, des gens roulent à 120. On va faire des vitesses plus autour de 88 km/h. C'est le chiffre maximal là, que Transport Canada va atteindre pour faire les tests de consommation. Tu sais, on n'utilise pas une conduite qui est parfaite. On s'entend comme Ben, j'aurais dit plutôt une conduite imparfaite, comme nous on fait, là, t'sais, on pèse fort sur le gaz, on décélère, on dépasse, on roule plus vite que la limite, des choses comme ça. C'est sûr qu'on le fait dans un environnement qui est contrôlé, qui est souvent effectivement à l'intérieur. Donc, on est capable d'avoir un meilleur contrôle sur les vents, on est capable d'avoir un meilleur contrôle sur le dénivelé de la route aussi. T'sais, on n'est pas dans des situations parfaites. Il faut vraiment le voir comme une moyenne. Chose que je peux vous dire, par contre, à force d'en essayer des autos, je me rends compte qu'on n'est jamais très loin de la vérité, par contre. T'sais, quand je conduis. Je parle du Silverado que j'ai présentement à l'essai. C'est un gros camion tellement imposant. J'arrive dans les codes de consommation que Transport Canada, que je voudrais dire, c'est Ressources naturelles Canada qui fait les tests, qui disent par rapport à ce camion-là, même que j'ai fait un peu mieux que eux, qu'est-ce qu'ils ont donné comme code de consommation. Fait que, tu sais, c'est fiable. On peut s'y fier. Maintenant, est-ce que c'est parfait? Non, puis faites, prenez pas ça pour du cash à 100%. Tout va dépendre de tellement plein de facteurs, de votre style de conduite à vous, de votre. Si je sais pas, vous avez quelqu'un qui aime payer sur le gaz, vous aimez ça, accélérer, décélérer, vous allez briser tous les codes de consommation qui sont montrés sur le site. Fait que c'est sûr et certain que vous allez dépasser les codes.
Ben, ça, c'est une autre affaire. J'entendais un vieil animateur de radio dans le temps qui disait « Compliquez-vous pas la tête quand vous êtes sur la 20, sur la 40, vous voulez sauver de l'essence, rouler derrière un gros véhicule qui va aller vous couper le plus possible le vent. »
L'aspiration.
Si vous avez la chaufferette, ben laissez pas vos fenêtres ouvertes, là, parce que la chaufferette coûte énormément d'énergie. Fait que mettez votre température adéquate, puis ouvrez pas vos fenêtres. En tout cas, il donnait tout le temps des conseils, puis à un moment donné, Matt, mon autre chroniqueur auto, disait, tu sais, Yann, t'as pas idée à quel point il y a des trucs qu'on peut prendre pour limiter la consommation. Tu sais, ceux qui font tout le temps des gros stop and go là, pour ce qui est des lumières et tout ça, c'est pas compliqué. Quand tu sais que la lumière est rouge, t'es pas obligé de peser sur le gaz. T'es à 80 km/h, tu sais que ça va te décélérer. Puis anyway, ce qui va te rester à faire par la suite, c'est juste de peser un peu sur le frein pour arriver en arrière des autres véhicules. Mais il y en a tellement qui pèsent sur le gaz jusqu'à la dernière minute. Après ça, ils appliquent les freins. Puis là, ben, la circulation recommence. Ils repèsent sur le gaz d'un coup sec. Ça coûte cher, là.
C'est débile. Puis tu sais, il faut se dire que la raison pour laquelle vous consommez plus d'essence, c'est plus vous pèsez sur l'accélérateur. C'est aussi simple que ça. Hein? Des fois, on espère réinventer la recette de consommation. Là. Mais plus vous pèsez sur le gaz, plus vous consommez de gaz. Vous voyez ça de même. Là, c'est aussi simple que ça. Et ça revient aussi à l'utilisation des cruise control. Moi, je suis quelqu'un qui prône beaucoup l'utilisation du cruise control sur la grande route.
Ouais.
Le régulateur de vitesse qui est si pratique pour justement sauver beaucoup d'essence. Hein? Ça peut être extrêmement avantageux sur la grande route. Maintenant, il faut faire attention aux nouveaux régulateurs de vitesse qui sont ceux adaptatifs qui vont ralentir à la venue d'une voiture qui roule moins vite que vous. Vous roulez 110 dans la voie de droite, il y a une voiture qui roule à 100, vous arrivez derrière la voiture, votre véhicule va ralentir par lui-même, vous allez faire le dépassement, mettre le flasher, tourner le volant, et le véhicule va réaccélérer à 110 km/h. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais on vient de recréer un peu le phénomène du stop and go, parce que là, on est en train de décélérer pour réaccélérer tout le temps. Donc là, en pèsant sur l'accélérateur tout le temps, ça devient plus dispendieux à la longue que de garder la même pression sur l'accélérateur pendant tout le long du trajet.
Ouais.
Donc, ça, c'est moi, si vous êtes quelqu'un qui avait la chance d'avoir des produits, GM le fait très bien, Nissan le fait très bien, où est-ce que vous êtes capable de sélectionner quel cruise control vous voulez? Vous pouvez avoir lui adaptatif, le nouveau genre, ou vous pouvez, avec la pression d'un bouton, transformer votre cruise control en ancien cruise control, et là, ça devient plus économique sur la grande route. Donc, ça, c'est comme des nouveaux trucs techno à penser quand on prend la route, si vous voulez être encore plus économe en carburant. Le stop and go, tu l'as si bien dit, mais ça, c'est une affaire à éviter le plus possible. Et je brise un mythe aujourd'hui avec vous. C'est pas plus dispendieux nécessairement de rouler avec votre climatiseur que de baisser les fenêtres. Il y a plusieurs tests qui ont été faits qui disent que quand vous baissez les fenêtres de votre véhicule, vous brisez l'aérodynamisme aussi de votre véhicule. Donc, en faisant ça, vous venez de gâcher justement votre consommation d'essence.
Ouais.
Donc, d'utiliser le climatiseur, ça peut être une bonne idée dans l'optique où est-ce que vous n'êtes pas obligé de le mettre au maximum tout le temps, de le faire travailler au maximum, mais quand vous trouvez votre bonne température, ça marche réellement bien sur l'économie de carburant.
C'est ça, puis tu laisses tes fenêtres fermées. OK, hey, j'avais quelque chose d'autre à dire. Ah oui, il avait déjà calculé aussi la différence que tu sauves quand tu fais Québec-Montréal, là, si tu roules à 120 versus si tu roules à 100. Donc, il nous avait calculé la différence de temps versus l'argent que tu dépensais. Puis tout le monde qui avait entendu cette chronique-là s'entendait pour dire « OK, ça vaut vraiment pas la peine de rouler à 120 km/h là, versus le temps qu'on sauve. » T'sais. Des fois, on dirait qu'on a l'impression qu'on sauve 3-4 jours. Là, en faisant Québec-Montréal, tu sauves 3-4 jours en roulant à 120. Non, c'est quelques minutes. Là.
Puis ça paraît vraiment, le 10 km/h de moins que vous allez faire sur la route va vraiment paraître sur votre consommation. J'arrive de l'Ontario justement avec mon gros pick-up. Là, j'avais mon 2500 HD. Quand je suis monté, pied au plancher, tu sais, de voie de gauche, on est dans, ça roule sur 401, là, mais je roulais aussi, tu sais, je suivais le monde, puis ça roulait, tu sais, j'accélérais. J'ai fait 14,9 litres en moyenne. Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'étais à 12,5, mettons, là. C'était mon meilleur chiffre que j'avais fait, tu sais. Quand je suis revenu vers Québec, j'ai décidé de faire l'inverse, d'aller plus doucement pour voir la différence. J'ai fait du 11,6 final, mais j'ai vu du 10,6, du 9,6 même en descendant dans certaines situations. Fait que là, mon énorme véhicule commençait à être de plus en plus logique en consommation. Quand on a une tank de 125 litres, on est content de sauver quelques litres parce que je l'ai foulé, ce truc-là, bien vite. Ça m'a coûté 193 $ et ça, j'étais à 1,55 le diesel. Donc, je vous avoue que des fois, rouler 10 km de moins vite peut faire une belle différence à la pompe réellement.
Hey, je vais te poser une question pour savoir quel genre de gars que t'es, là. Puis d'après moi, les gars devraient aimer la question que je te pose. T'es-tu de ceux qui essayent d'enlever le nom Mustang à Mustang Mach-E?
Très mauvais move. Je vais le dire comme ça, là, mais en plus, tu sais, j'ai étudié dans l'univers du marketing, j'ai travaillé dans des agences de publicité dans ma vie, puis je comprends pas, encore aujourd'hui, les stratèges de Ford ont vraiment essayé de nous le faire acheter, là. C'était vraiment une bonne idée, on voulait montrer la sportivité de notre produit électrique, on voulait montrer la férocité de ce véhicule-là. C'est comme si... Si on voulait créer un Elvis, mais qui fait du rap, on l'appelle comme Elvis Rap. Ça marche pas. Il y a de quoi qui cloche avec ce nom-là. Puis c'est intouchable, vraiment, la légende Mustang. Il y a du monde qui sont déçus de ça et je les comprends. J'ai pas plus de choses à dire. Je vous comprends, c'est pas l'essence du véhicule à la base. T'sais, si on avait fait, mettons, une voiture décapotable, deux places électriques de performance, puis on l'appelle Mustang Mach-E, puis elle est dans le catalogue de la Mustang. C'est pas un VUS électrique, là, c'est une voiture sportive. J'aurais dormi avec ça. Un VUS, comment?
Alors, hey, écoute, j'avais fait une... avec la gang de Bernier Auto, je l'avais essayé, la fameuse Mustang Mach-E. Puis j'avais fait l'erreur de dire Mustang Mach-E. Puis le nombre de personnes qui m'avaient écrit par texto, « Appelle pas ça Mustang! » J'ai compris assez vite qu'il fallait pas que je dise Mustang puis Mach-E après. On dirait que les purs et durs, ceux qui trippent vraiment sur le modèle Mustang, ont rejeté carrément ce modèle-là comme s'il n'avait jamais existé.
Ben, Ford veut en faire une marque à part entière. On veut créer d'autres produits sous l'appellation Mustang à un moment donné. Là. Le but, c'est de faire... Dans le catalogue Ford, vous allez avoir un jour Bronco. Là, il va y avoir le Bronco Sport. Il va peut-être avoir un mini Bronco à un moment donné, une espèce d'affaire de même. Ben, on veut créer aussi la marque Mustang en tant que telle qui pourrait avoir peut-être un jour effectivement une Mustang électrique qui arrive dans le catalogue. C'est juste que je trouve que c'était une drôle de manière de se présenter au grand public, surtout avec les puristes de cette voiture-là, qui a encore été la voiture sportive de 50 000 $ la plus vendue au monde encore l'année dernière pour une xième année consécutive. Ouais. La Mustang est une voiture extrêmement populaire et extrêmement achetée. C'est le Saint Graal chez Ford. Ça devient dur de ne pas l'aimer. Ça devient dur d'introduire un VUS électrique qui porte son nom. Comment
c'est compliqué? Ah, c'est ça. Puis moi, quand je l'ai essayé, j'ai été agréablement surpris des performances de ce véhicule-là. Ouais. C'était la première fois que j'essayais un véhicule électrique, Sam. J'ai toujours été un peu en retard sur les autres, là, mais c'est pas grave. T'sais, l'important, c'est d'arriver à destination quand t'es pas vite. et de voir qu'à partir du moment où tu appuies sur le pouvoir, que le pouvoir, il est là tout de suite, il est présent, ça part. C'est exceptionnel comme vitesse d'accélération. Écoute, si j'étais un peu plus vieux, là, peut-être que ce serait le genre de véhicule qui pourrait m'intéresser, mais t'es encore jeune, fait qu'un genre de Mustang à essence avec le bruit qui vient avec, ça me plaît beaucoup, là.
La dernière génération vient tout juste d'être présentée, d'ailleurs. Ouais. On est resté fidèle. Hein. Il y a certaines personnes qui ont critiqué Ford de ne pas avoir assez osé. Moi, je suis content. Je suis content qu'on donne un break aux puristes un peu. Là. C'est comme... J'en reviens sur l'exemple de la musique, là, mais là, on essaie de faire avaler un nouveau style musical à tout le monde puis de dire c'est le nouveau style de l'heure. Vous allez l'aimer, vous n'avez pas le choix de l'aimer. Mais moi, j'aime mon bon vieux classique rock. Fait que, tu sais, à un moment donné, je trouve ça le fun qu'on pense encore aux gens qui ont des goûts différents. T'sais, on a le droit d'aimer les voitures sportives, on a le droit d'aimer les voitures à essence encore. T'sais, moi, j'ai pas de misère à dire quelqu'un qui aime les voitures à essence, C'est bien correct. Moi, j'ai pas de malaise avec ça. On verra où est-ce qu'on s'en va. On est conscient qu'il y a un problème d'approvisionnement et que c'est moins bon pour l'environnement au bout de la ligne. Fait qu'il va falloir qu'on prenne des décisions avec ça. Puis je pense qu'il y a une transition à faire. Mais allons-y une étape à la fois.
Exact.
Puis rendons tout le monde heureux de le faire, la transition.
Parce que les véhicules actuellement, là, les véhicules qui émettent là, en raison du fait qu'il y a de l'essence à l'intérieur de ces véhicules-là pour pouvoir avancer, ils n'ont jamais été aussi si peu polluants.
Ouais.
On s'est beaucoup amélioré pour ce qui est de ce qu'on renvoyait dans l'air par la suite, puis laissons les technologies avancer, mettons de l'argent justement pour que ces véhicules-là polluent le moins possible, mais arrêtons de lutter l'un contre l'autre. Les technologies vont faire en sorte qu'on va merger vers des technologies qui sont beaucoup moins polluantes. Est-ce qu'on a le prix de cette nouvelle Mustang-là, Sam?
Oui, et la nouvelle Mustang qui vient tout juste, comme je vous l'ai dit tantôt, d'être présentée. La gamme de prix a été dévoilée, puis on pensait pas qu'elle allait sortir aussi vite que ça. Généralement, les constructeurs, ils aiment ça nous faire lampiner un peu. Mais on a vraiment tout l'ensemble des prix qui sont sortis. Ce qu'on voit, c'est que bien sûr, il y a une augmentation de prix sur l'ensemble de la gamme. Pour vous donner une idée, exemple, le moteur EcoBoost, le 4 cylindres turbo qu'on avait d'entrée de jeu dans la version coupée, coûtait 35 000 $ en 2023, va coûter 39 000 avec la nouvelle génération pour 2024. C'est quand même la 7e génération du produit. On a fait quand même des ajustements majeurs, tant au niveau de l'esthétisme, mais aussi du confort du véhicule. On a ajouté beaucoup de technologies. Donc, je trouve que la facture de 3840 pour aller chercher un véhicule qui est vraiment maintenant à jour, qui n'est pas une génération qu'on étire le plus possible, je trouve ça convenable, surtout qu'on est dans un produit sportif. Tu sais, on veut quand même garder de l'essence de la sportivité. Donc, je ne suis pas si fâché que ça. C'est surtout la version décapotable qui, elle, a gagné 6420 $ de plus, qui est rendue à 46 000. On commence à être un petit peu plus dispendieux, honnêtement. Là, on commence à être dans des chiffres qui peuvent nous approcher de certains compétiteurs un peu plus luxueux, je pourrais dire. Donc, à voir, mais la décapotable reste quand même l'un des plus vendus, donc je serais vraiment surpris qu'ils perdent de l'argent avec ça. Mais on va se rendre jusqu'à 81 000 $ pour la Mustang avec l'édition Dark Horse Premium, qui est un nouveau produit qui vient d'être présenté, qui est l'édition la plus sportive de la Mustang. Donc, l'échelle de prix va être entre 39 000 à 81 000 $ on a gagné un écran de 12 pouces. L'édition Dark Horse va arriver avec un moteur qui développe 500 chevaux, un moteur V8 de 5 litres. Donc, on reste encore vraiment pour les puristes avec cette édition-là. Donc, tu sais, comme je vous dis, je trouve vraiment que Ford a un produit entre les mains qui, malgré la petite augmentation, bien, l'augmentation qui est là, reste encore compétitif comme produit. Puis, tu sais, je pense pas qu'ils ont exagéré. Ils auraient pu vendre la version de base autour de 43 000, 44 000. Puis, je pense même pas que ça aurait ralenti tant que ça les ventes. Là. Fait qu'à 39, je suis pas en train de dire que c'est abordable tant que ça. Je suis en train de dire que l'augmentation est justifiée. Voilà.
Dernier sujet qu'on va parler ensemble, toi et moi, pour ce qui est de ce soir. Est-ce qu'on va avoir des Cybertruck à un moment donné au Québec? T'sais, un qu'on pourrait voir à Québec, qu'on pourrait toucher là, pour dire « Tabarouette, c'est pas pire ce véhicule-là. Ah, il est beau. Ah, il est beau ou il est vraiment laid. » Il n'y a personne qui disait « Ce véhicule-là me laisse complètement indifférent. » C'était soit il est super beau, soit il est super laid.
C'est un peu le Aztec, le Pontiac Aztec du véhicule électrique, le Cybertruck, parce que ça fait réagir. C'est très polarisant. Le Cybertruck, on va finir par en voir. La bonne nouvelle que je pourrais vous dire avec ça, c'est que Tesla a commencé officiellement la production du véhicule. Elon Musk s'est confirmé, par contre, que c'était une petite production qu'on faisait pour 2023, mais que la production de masse, elle est commencée en 2024. La liste d'attente est pleine depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui sont en attente de ce camion-là. Fait qu'imaginez pas mettre la main dessus rapidement. Là. Si vous n'êtes pas déjà sur la liste, ça n'arrivera pas. Mais on devrait commencer à avoir surtout toutes les informations sur le produit, parce qu'on ne les a pas. Là, on apprend certains éléments sur le produit au compte-gouttes. On a vu une vidéo TikTok, il y a peut-être 3 jours, où est-ce que là, on voyait le frunk, qui est comme le coffre à l'avant, parce que les voitures électriques n'ayant pas de moteur, on transforme le bonnet en coffre. Et le frunk, qui a l'air minuscule dans ce produit-là, dans le Ford F-150 Lightning, on a 400 litres d'espace. Si on a 100 litres dans lui du Tesla Cybertruck, je vais être surpris. Là. Il est vraiment minuscule, le coffre qu'on a mis à l'avant de ça. Fait que, on commence à apprendre certaines choses, à voir des trucs. Peut-être que ça, il y a des consommateurs qui ne seront pas contents d'avoir un si petit coffre que ça. D'autres qui vont être contents, peut-être que ça va faire leurs affaires. Bref, on commence à avoir de plus en plus le modèle de production. Il y a des éditions finales qui ont été produites. On les a vues sur les routes américaines. Quelques-unes, c'est une poignée qui a été faite, mais l'usine est en fonctionnement, donc on devrait avoir 2024, début, milieu, fin 2024. On devrait commencer à en avoir sur nos routes au Québec. Ça va être dans l'année qu'on va le voir. Moi, je prédis l'été 2024 pour les premières éditions qui vont toucher le sol québécois.
Puis toi, tu le trouvais comment, le Cybertruck?
Hey, moi, écoute, j'ai aimé le Kia Soul, là. J'ai aimé le Nissan Juke.
Ouais.
Le Pontiac Astic me fâche pas tant. Fait que vous voyez un peu mon goût qui peut être qualifié de bizarre par certaines personnes, là. Mais moi, j'aime les designs osés, je trouve ça le fun. J'aime ça quand on shake un peu la patente puis qu'on fait de quoi de différent. Je l'haïs pas, moi. Je l'haïs pas, le Cybertruck.
OK, on est du même avis. Hey, je sais que t'es dans le Maine présentement, là. T'es avec ta petite famille en voyage. Donc, un gros merci pour avoir été avec nous autres ce soir. C'est un gros sacrifice que tu fais, puis je l'apprécie grandement. Je vais te remettre ça à un moment donné. Mais comment ça se passe là-bas, dans le Maine, là? Y a-tu des affaires à voir?
Écoute, chose que je me suis rendu compte, c'est que je me suis amusé à compter le nombre de voitures électriques que je voyais sur les routes et je suis à 3 présentement que j'ai vu depuis le début de mon trajet. Les Américains n'achètent pas les chars électriques. Là. C'est incroyable comment ça marche pas ici. Là. Je vois juste des gens en moto podcast, je vois des énormes camions, mais je vois pas de chars électriques. Fait que, mais pour l'instant, ça va bien. Je parle de voiture 24/7 avec ma blonde qui est patiente. Donc, mais ça se passe bien. Ça se passe très bien.
Okay. Puis, allez-vous faire un tour au parc d'amusement à Old Orchard pour les enfants?
On devrait faire un petit tour là. On va aller sur les plages aussi. Ouais. Je me suis amené de la lecture. C'est un livre de voiture, mais je vais lire un petit peu aussi. Puis on va prendre le temps de se reposer un peu.
Tu feras attention à l'eau dans le Maine. Hein. Tu sais, l'eau de l'océan dans le Maine, là, ça a l'air... Ça, tu te sens moins homme quand tu sors de l'eau.
Oui, j'en ai entendu des vous dire de ça. Ouais, oui, c'est ça.
Des fois, ça peut rentrer par en dedans, là, puis ça prend un bout avant que ça ressorte.
J'y crois sans problème.
Ouais, on peut t'entendre une fois de temps en temps sur les ondes de Boulevard à notre plus grand plaisir. Puis, y a-tu d'autres endroits où on peut te lire et t'entendre?
Sur ma page Facebook, c'est Meltral Michaud, chroniqueur automobile. Je publie également sur le site d'RPM. Donc, j'écris des actualités. Je fais des essais routiers pour l'équipe avec RPM maintenant depuis quelques mois. Donc, c'est toujours possible de suivre ça. Puis, je vous encourage un peu aussi, on le vit à Boulevard avec les problèmes de médias, mais si vous êtes capable d'aller sur le site d'RPM directement, je vous encourage à le faire à rpmweb.ca pour aller lire tout ça. On travaille fort, puis c'est bon ce qu'on fait. Allez-y donc, c'est le fun.
Samuel Tremblay Michaud, merci.
Un plaisir, merci beaucoup.
Bonne soirée, bye-bye.
Marceau, le soir. Le Monday Night Raw de la WWE. Pour la toute première fois à Québec, le 21 août prochain au Centre Vidéotron. Voyez les lutteurs Sami Zayn, Kevin Owens, Cody Rhodes, Seth Freakin' Rollins et plusieurs autres. Ne manquez pas le premier événement télévisé de la WWE à Québec. Cette semaine, soyez à l'écoute de Gravel dans le retour pour courir la chance de gagner vos billets. Billets en vente maintenant sur gestev.com et ticketmaster.ca.
Vous cherchez une façon captivante d'éveiller la curiosité chez vos enfants et petits-enfants? Le Moulin des Jésuites de Charlebourg présente sa toute nouvelle exposition permanente, Le Moulin, clé en main. Plongez dans une expérience interactive inoubliable où vos enfants découvriront l'histoire du Moulin des Jésuites d'une manière ludique et éducative. L'exposition offre des activités interactives, des jeux et des découvertes fascinantes qui plongent vos enfants dans un voyage captivant à travers le temps. Cet été, libérez l'histoire en famille et créez des souvenirs mémorables. Pour plus d'informations, visitez Moulin des Jésuites.org.
Un milieu de vie aux dimensions humaines, c'est ce qu'offre le Collège Saint-Charles-Garnier. Avec 11 profils et plus de 80 activités parascolaires, chaque jeune révèle ses talents et explore de nouveaux horizons. Culturellement, athlétiquement, scientifiquement, le Collège Saint-Charles-Garnier, oui, absolument. Détails au collègegarnier.com.
Cet été, osez planifier des escapades dans les aides-chemins en Chaudière-Appalaches. Un parc aquatique avec plage et lacs naturels, des arrêts gourmands, des sentiers de randonnée pédestre ou de vélo de montagne, des paysages à couper le souffle et plus encore vous attendre à une heure de Québec. Vous êtes dernière minute dans la planification de votre fin de semaine ou souhaitez seulement vivre une aventure improvisée? Inspirez-vous au tourisme-aide-chemin.qc.ca.
À l'achat d'une thermopompe efficace, Hydro-Québec double l'aide financière offerte et même plus. Obtenez dès maintenant jusqu'à 6 720 $. Ben voyons, 6 720 $. Deux fois plus de raisons d'en profiter. Détails à hydroquebec.com/thermopompe.
En participant à une étude clinique chez Cineos, vous contribuez à la médecine de demain.
Soyez fiers de faire partie de notre communauté de participants. La recherche à Cineos Québec, c'est plus de 25 ans d'expérience. Une équipe dédiée de 180 employés sur la région de Québec, deux sites de sélection, un sur Québec, un sur Montréal. Votre contribution est importante. Faites le premier pas et n'hésitez pas à nous rejoindre au 1-866-262-7427. Plusieurs projets disponibles.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Comme pour ces moments où vous faites la navette sans arrêt pour vos enfants. au point où vous êtes plus étourdi que dans un manège. Pour vous aider à survivre au train-train quotidien, nos véhicules vous offrent tout l'espace et la durabilité dont votre famille a besoin. Quand la vie va vite, c'est l'heure Toyota. Découvrez la famille RAV4 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Boulevard 102.1 a mené un sondage auprès de la population de Québec. Nous lui avons demandé...
Selon vous, là, est-ce que Boulevard 102.1 est la radio qui diffuse le meilleur rock des trois dernières décennies à Québec?
Peut-être, ouais.
Non, oh, c'est unanime. 100% de nos répondants trouvent que Boulevard 102.1 est la radio qui diffuse le meilleur rock de Québec.
102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Veille d'orage violent, c'est ce que nous mentionne Environnement Canada pour ce qui est de ce soir. Espérons que ce soit pas si pire que ça. Quoique, une fois de temps en temps, des orages, c'est beau à voir quand on est à l'intérieur au sec et on a notre café... dans les mains. Maximum de 25 degrés, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. On ne l'a pas atteint. On a pogné un genre de 24 pour aujourd'hui. Puis le facteur humidex était quand même assez élevé, là, autour de 30 aujourd'hui. Fait qu'avec cette pluie-là qu'on aura ce soir, ça va redescendre un peu. Pour ce qui est de demain, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Un maximum de 22 degrés. Avec l'humidex, température ressentie de 26. La belle journée du week-end, ce serait samedi, selon eux. Samedi 12 août, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 21. En soirée, ce serait des averses avec un minimum de 15. Et dimanche, ben, on nous parle de pluie. Bâtissons sur le positif, bâtissons sur samedi. Puis peut-être que dimanche, ça changera, comme ils disent. Et lundi, ben, ce sera le retour du soleil. Des nuages à 30 % de probabilité d'averse, maximum de 25 degrés. Je vous laisse là-dessus. Puis, je vous rappelle que mon chroniqueur qui était avec moi ce soir, c'était Samuel Tremblay-Michaud. De ce que je vois, là, je constate que vous l'avez grandement apprécié. Ça ne me surprend pas, un maudit bon gars. Puis, on aura l'occasion de le recevoir une fois de temps en temps dans Marceau Soir. Salut, bonne soirée, on se rejase demain, 11h30, pour ce qui est de Marceau le midi.
Marceau le soir.
Cet été, les grands feux Loto-Québec et Boulevard 102.1 font équipe pour vous émerveiller avec des spectacles pyrotechniques à tous les jeudis. C'est une saison estivale haute en lumière qui vous attend. Profitez de 8 soirées festives gratuites sur chacune des rives du fleuve.
Le jeudi 10 août à 22h, assistez à la représentation sous la thématique DJ. Boulevard 102.1 diffusera fièrement la musique qui rythmera les explosions de lumière.
Les grands feux Loto-Québec et Boulevard 102.1, fiers partenaires de vos sétillantes soirées d'été.
En attendant que nos pommes soient prêtes, le domaine Orléans déborde de bleuets. Profitez-en pour venir faire l'auto-cueillette. Le domaine Orléans, moins d'un kilomètre à droite en entrant sur l'île.
En participant à une étude clinique chez Cineos, vous contribuez à la médecine de demain.
Soyez fiers de faire partie de notre communauté de participants. La recherche à Cineos Québec, c'est plus de 25 ans d'expérience et plus de 2500 sujets ayant participé à un projet sur les trois dernières années. Votre contribution est importante. Faites le premier pas et n'hésitez pas à nous rejoindre au 1-866-262-7427. Plusieurs projets disponibles.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici avec plein art. Participez au concours matière à découverte.
Plus de 3000 $ en prix à gagner, dont une nuitée au Fermont le Château Frontenac.
Pour participer, repérez les trois pastilles matière à découverte et retenez le numéro de kiosque où elles se cachent. Participation sur place. On se retrouve à plein art. Entrée gratuite à l'espace 400. Une collaboration week-end 91.9, le Fermont le Château Frontenac, Strom Spa Nordique, Homer Dessert, Musée de la Civilisation, les Impressionnistes et Distillers.
Cet été, plusieurs chantiers routiers seront présents à Québec. La Ville de Québec vous invite à planifier vos déplacements, que ce soit en partant plus tôt, en utilisant les applications de navigation, le transport en commun ou actif, vous réduirez vos irritants. Votre collaboration est essentielle dans l'amélioration de notre ville.
Pour joindre la gang en ondes par téléphone, 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 102.1.
Auto Hi-Fi, innovation et perfection haute performance.
Auto Hi-Fi, boutique et atelier technique. Une équipe de passionnés.
Ça ne joue plus, ça ne fonctionne plus. Pas de panique, Auto Hi-Fi. Que ce soit électrique, technique ou électronique, peu importe la marque. Consultez nos techniciens en atelier. Service mobile sur demande.
Auto Hi-Fi, pour un diagnostic d'expert et solution à juste prix.
Auto Hi-Fi, rue Bouvier, l'excellence intégrale à Québec.
Découvrez le parcours nocturne enchanté à Wendake, Onwa Lumina,
créé par Moment Factory. En forêt, laissez-vous transporter par cette expérience multimédia tout en vous imprégnant des rythmes et chants du peuple Huron-Wendat. Achetez vos billets sur onvoilumina.ca.
On a un nouveau petit chouchou chez Volkswagen Saint-Nicolas. Le Taos, le plus petit utilitaire chez Volkswagen. Un véhicule pratique, économique en essence et au moteur fougueux. Vous êtes membre du programme Fidélité? Profitez de 2 ans d'entretien gratuit. Réservez votre Taos dès maintenant. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Check it out!
Boulevard 102, c'est votre radio rock. Merci d'être là.
Notre ADN du rock.
On est de plus en plus nombreux à avoir du fun.
Ben, parce que vous êtes les meilleurs au monde.
J'adore 102!
Il n'y a rien de mieux que 102
hein,
et son équipe de fou.
102-1.
Parce que vous êtes
la meilleure radio
au monde!
Yeah. Boulevard 102-1.
102-1.
Boulevard 102-1. Bienvenue chez vous. C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Oh, ça c'est du rock.
Excellent jeudi soir à tous. Il est 19h, Max Larouche s'installe à Boulevard 102.1 pour le volume au max. Plus que 24 heures d'attente ou à peu près avant le grand retour de Metallica au Stade Olympique à Montréal. Deux shows ce week-end, un demain, un dimanche, des setlists qui sont différents, des premières parties qui sont différentes aussi. Vraiment, on va être gâtés les amateurs de rock en fin de semaine du côté de Montréal et je sais qu'on est énormément de gens de Québec à faire la route vers notre belle ville préférée, c'est une blague, Montréal, pour aller voir Metallica. Bien hâte de vous y croiser, bien hâte de vous en jaser aussi. Très, très hâte de voir Metallica pour ma première fois. En musique, ce que j'ai pour vous ce soir, on va partir en force en séquence rock avec Rise Against, Fall Out Boy, Imagine Dragons, Modest Mouse. Et tout de suite, ce que j'ai, bien c'est du bon vieux Linkin Park. Breaking the Habit. Vous écoutez le volume au max à Boulevard 102.1.
Try to start again. I don't want to be
will float on, good news is on the way.
Down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. I remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke it down to tears. I know I took the path that you would never want for me. Dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years.
Drink up its last call, last resort. I only got first mistake.